Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Salwa Jafari en votre compagnie. Ce soir, nous allons parler xénophobie en Afrique du Sud. Nous irons aussi au large des côtes italiennes pour aborder le drame de l'immigration clandestine. Sans plus tarder, voici le sommaire.
Le pays de Nelson Mandela en proie à une vague de xénophobie. Quel a été l'élément déclencheur de ces événements? Pourquoi ces migrants sont-ils priés de faire leurs bagages et de partir? Et puis on partira vers le nord, comme tous ces milliers d'Africains qui quittent leur pays pour l'Europe. La mer Méditerranée est devenue un cimetière maritime. Nous débattrons entre autres des raisons qui ont poussé ces hommes et ces femmes sur le chemin du désespoir.
Washington Forum.
Bienvenue à tous. Vous les avez probablement vus, ces images insoutenables de corps repêchés des eaux de la Méditerranée. Des images qui suscitent l'indignation, mais aussi l'incompréhension du reste du monde. Et les chiffres sont tout aussi choquants. 1776, c'est le nombre de migrants portés disparus en mer Méditerranée depuis le début de l'année, sur les plus de 36 000 arrivés par bateau dans le sud de l'Europe. Kadiatou Traoré revient sur la catastrophe la plus récente, celle de dimanche dernier.
La pire hécatombe jamais vue en Méditerranée, selon les propos du ACR. Le chavirement des chalutiers transportant des migrants aurait fait jusqu'à 700 morts dimanche dernier. Seulement 28 cadavres ont été repêchés au large des côtes libyennes. Selon les témoignages des survivants, les passagers se seraient massés du même côté à l'approche des navires marchands. Entre 500 et 1000 personnes sont chaque jour récupérées par des gardes-côtes italiens. La météo plus clémente, les migrants n'hésitent pas à tenter leur chance. Des appels que l'Union européenne semble avoir entendus, puisque la question est soulevée aujourd'hui à Bruxelles par les 28.
Parce qu'il y a une situation humanitaire qui n'est pas acceptable.
L'Europe annonce de nouveaux moyens, une nouvelle stratégie, mais il y en a eu dans le passé des initiatives similaires. Le plan italien Mare Nostrum, le plan européen Triton, aucun ne semble marcher. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année. 1600 sont toujours portés disparus.
Avec nous pour débattre de ce sujet sur le plateau, Michael Shurkin. Monsieur Shurkin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez la RAND Corporation ici à Washington. Mais avant de vous adresser la parole, j'aimerais parler à monsieur Ali Konaté qui est avec nous au téléphone de Malte. Monsieur Konaté, bonsoir. Vous m'entendez?
Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va.
Bonsoir Ali. Vous êtes représentant de l'association Migrant Network for Equality, et vous êtes ancien immigré clandestin vous-même. Racontez-nous un peu votre voyage.
Ouais, bon, moi, je suis du Mali. J'ai quitté le Mali pour aller en Côte d'Ivoire l'an 2000. Et en Côte d'Ivoire, après quelques mois, j'ai pris la route de Libye. Et j'ai fait un peu de temps en Libye. En 2002, je suis rentré en Malte. Mais tout cela a été fait pour bateau et puis avec les voitures, et puis comme ça, un peu de marché aussi.
Monsieur Konaté, quel âge aviez-vous quand vous êtes parti?
Bon, quand j'ai quitté chez moi, j'étais vraiment tellement petit. Bon, tu sais, quand on est petit, souvent, on ne sait pas quel est bon et quel est mal, tu vois.
Et pourquoi êtes-vous parti? Vous vous rappelez quelle était vos pensées? Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi avez-vous décidé de partir?
Bon, souvent chez nous, on a des traditions de mariage et quoi là. Bon, si les familles veulent te marier en tant que jeune ou quoi là, si tu n'as pas voulu, sois seul que tu quittes la maison. Parce que si tu n'as pas quitté, tu vas forcément marier sans soi.
Restez avec nous, Monsieur Konaté. Je reviens vers vous tout de suite dans quelques instants. Avant de faire, Monsieur Shurkin, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe aujourd'hui? Comment voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui?
Bon, ce que je vois, c'est il y a une situation qui ne va pas se terminer. C'est-à-dire, il y a une grande pulsion, il y a un grand besoin pour les gens de l'Afrique subsaharienne. et de l'Orient, du Moyen-Orient, aussi Afghanistan, de faire la migration vers l'Europe. Mm-hmm. Ça ne va pas changer. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas changer. Il y a aussi de l'autre côté de la Méditerranée, on voit la difficulté avec laquelle l'Europe fait face à ce problème. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mm-hmm. Et aussi qu'il s'agit de trouver des solutions à un grand problème de cette taille. Les Européens sont des spécialistes dans le parler. C'est-à-dire qu'on peut compter sur eux de parler, mais pas de prendre des décisions. Et surtout pas de faire des politiques qui doivent être soutenues par les moyens. C'est-à-dire qu'il s'agit de dépenser de l'argent, de faire des bateaux, de mobiliser les ressources. C'est très difficile parce que tous les pays européens veulent que les autres le fassent et pas eux. Donc, c'est-à-dire que je vois la situation comme une situation qui va continuer sans cesse parce qu'il y a toujours des demandes, mais aussi des problèmes chez les Européens.
Mmh. On va reparler du plan européen dans quelques instants. Avec nous de Bruxelles, il vient de nous rejoindre, Monsieur Ambrosi, qui est le directeur régional de l'Organisation internationale des migrants. Monsieur Ambrosi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on parle d'immigration clandestine et vous avez des agents sur place. Quel est le travail que vous faites sur le terrain pour venir en aide à ces personnes?
D'abord, nous, on travaille pas seulement avec la migration clandestine, évidemment. On travaille avec les thèmes de migration en général. Et on est présent dans les pays d'Afrique du Nord, ainsi comme dans les pays de l'Afrique subsaharienne, avec beaucoup d'activités pour aider les pays à gérer justement cet flux important des migrants qu'ils bougent pas seulement vers l'Europe, mais aussi entre les pays de l'Afrique même. On a beaucoup d'activités d'un point de vue d'assistance directe aux migrants, selon les besoins spécifiques que les différents groupes ils peuvent avoir. Mais aussi, on travaille beaucoup avec le renforcement des capacités des gouvernements africains pour justement gérer les thèmes de migration, gérer mieux les flux, les frontières et l'assistance aux migrants. Le problème, c'est évidemment que les mouvements sont importants parce qu'il y a une situation générale, pas seulement en Afrique, mais dans plusieurs régions limitrophes, qui pousse les gens à bouger en cherche des solutions de vie différentes, soit parce qu'ils doivent échapper à la guerre, soit parce qu'ils doivent échapper à des situations de pauvreté ou de vulnérabilité très importantes. Donc, on est en face d'une situation compliquée, mais sûrement ce n'est pas une situation ingérable. C'est un thème de politique efficace et de comprendre aussi que la migration, ce n'est pas un phénomène à essayer de fermer, parce que c'est impossible. C'est un phénomène qu'il faut gérer. Et il faut gérer dans l'intérêt des pays d'origine, des pays de destination et surtout des migrants même.
Alors, politique efficace, c'est ce dont il est question aujourd'hui. L'Union européenne se réunit aujourd'hui pour se mettre d'accord sur un plan pour tenter de stopper l'hémorragie. Un plan qui est à peine dévoilé, déçoit déjà. Ce n'est pas la première tentative. Il y a eu plusieurs plans dans le passé. L'opération italienne Mare Nostrum, l'opération Triton et puis Frontex. Et toutes ces opérations ont échoué visiblement. Alors, Monsieur Shurkin, quels sont, à votre avis, quels sont vos, que proposez-vous pour qu'il y ait un meilleur plan?
Je sais que ce qui est de nouveau maintenant dans les nouvelles négociations, c'est cette idée de chercher une solution quasi militaire. Mm-hmm. On parle de faire l'interdiction, c'est-à-dire d'essayer de s'attaquer aux trafiqueurs qui reste toujours sur place en Afrique du Nord, surtout au Libye, de détruire les bateaux et de décourager les trafiqueurs de faire le trafic. Et avec ça, c'est assez élégant parce que ça force, oblige les migrants de rester sur place, de ne pas traverser la mer et de décourager tout le monde d'essayer de venir vers l'Europe.
Monsieur Ambrosi, vous m'entendez?
Je crois qu'il faut... Oui, j'entends. Vous m'entendez, oui?
Oui, je vous entends.
Je crois qu'il faut se rendre compte de deux questions fondamentales. La première, c'est que l'Europe même a besoin des migrants. D'un point de vue démographique, la population européenne vieillisse. Donc, pour le futur du marché du travail européen, pour le futur des systèmes économiques européens, pour le futur des systèmes de pension et des systèmes d'assistance sociale européenne, on aura besoin de plus en plus de travailleurs migrants. Donc, la stratégie, c'est de mettre en place des politiques et des mécanismes qui ils vont permettre aux travailleurs migrants de dehors de l'Europe de rejoindre l'Europe dans une façon légale et sans être forcés à utiliser les trafiquants. Mm-hmm. Le problème principal du trafic des migrants envers l'Europe, c'est qu'en ce moment, rejoindre l'Europe dans une façon légale, c'est presque impossible. Donc, pour ceux qui cherchent un futur, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui essayent de trouver une solution de vie et un projet de vie, il n'y a aucune autre alternative qu'utiliser des trafiquants. Donc, c'est ça la première chose qu'il faut attaquer. Et c'est vrai que dans les plans actuels, on a une préoccupation très grande de contrôler les frontières et d'essayer de stopper les flux, mais on n'a pas une préoccupation suffisante à voir comment on peut créer des mécanismes pour aider la migration légale vers l'Europe, mm-hmm. que c'est une question importante et nécessaire pour les deux côtés, les côtés africains et les côtés européens.
Alors parlons un peu de ce nouveau plan. Quelles sont les nouveautés dans ce texte?
Je ne sais pas s'il y a des nouveautés. Il y a un accent plus fort sur certains points. Un, c'est le renforcement de l'opération Triton. Mm-hmm. Il faut voir évidemment qu'est-ce que ça veut dire renforcement, si c'est simplement augmenter les budgets ou s'il y aura aussi un changement du mandat et les procédures d'opération de l'opération Triton. Mm-hmm. Il y a un accent un peu plus fort sur la nécessité pour l'Europe de commencer un programme pilote de réinstallation des réfugiés, donc de recevoir plus de réfugiés dans une façon organisée et légale en Europe. Ici aussi, il faudrait voir les nombres de réfugiés qui vont être reçus en Europe. Et il y a un accent aussi sur la nécessité de partager la responsabilité de l'accueil des migrants qui arrivent dans le sud de l'Europe entre les 28. Sur ces derniers points, je crois que c'est un point très important, mais il manque encore une définition précise de comme cette partage des poids va être implémenté par les 28.
Alors la Libye est devenue un véritable carrefour de trafic humain, une passoire. Le pays, on le sait, a sombré dans le chaos depuis la mort de Kadhafi. Et cette absence d'autorité et de contrôle fait que les passeurs prospèrent. J'ai ce chiffre sous les yeux. Les revenus annuels des trafiquants peuvent atteindre jusqu'à 5 milliards d'euros, selon les Nations Unies. Monsieur Konaté, vous êtes toujours avec moi?
Oui, oui.
Alors, combien ça vous a coûté, la traversée?
Ouais, bon, ça dépend, hein, parce que c'est pas tout le monde qui paye même chose, là. Il y a des gens qui payent 2 000 $, il y a des gens qui payent 1 000 $, et puis il y en a même qui payent même 600 $.
Alors, monsieur Chorkine, les trafiquants, on n'arrête pas de les arrêter, on en a même arrêté hier, ouais. Et pourtant, ils reviennent toujours à la charge. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau, au niveau des trafiquants, par exemple, en Libye?
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question sans réponse, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Au fur et à mesure que la Libye reste dans un état de chaos, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, cette idée d'une solution quasi-militaire est presque impossible. On ne va pas la faire, on ne peut pas la faire. C'est un rêve. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire ce que l'autre monsieur a dit, d'essayer de gérer le problème en divisant un peu mieux les responsabilités, le fardeau de cette responsabilité parmi les pays européens. Mais ceci dit, c'est très difficile de point de vue politique.
Alors, diviser les responsabilités parmi les pays européens, mais aussi les pays de transit, par exemple. Et monsieur Imbrosier, ne faut-il pas chercher la solution ailleurs, c'est-à-dire dans les pays d'origine et aussi les pays de transit, comme le Maroc, le Niger, le Nigeria?
Oui, évidemment, la coopération et le travail des pays d'origine et des pays de transit, c'est important. Mais, encore une fois, il faut s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire la coopération avec eux et pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est pas simplement en question de coopérer avec les pays d'origine ou les pays de transit pour arrêter les flux, pour arrêter les mouvements. C'est pas possible, ce serait pas intelligent. Mais c'est en question de travailler avec eux pour rencontrer une façon de gérer conjointement sur un plan de partenariat véritable la problématique de la mobilité et de la migration à l'intérieur de l'Afrique et envers de l'Europe. Si je peux faire un petit commentaire sur la question de la Libye et des trafiquants en Libye, c'est vrai qu'en Libye, on a une absence totale de l'État et des autorités, donc c'est très difficile de faire quelque chose. Mais ce serait une erreur de penser que les trafiquants existent seulement en Libye. Les crimes de trafic d'êtres humains et de trafic des migrants, c'est un crime transnational. Les passeurs et les trafiquants en Afrique du Nord ont ces connexions en Europe aussi. Donc il faut attaquer les phénomènes du trafic de deux côtés, du côté européen et du côté aussi africain ou nord-africain. Parce que sinon, on s'en sort pas. Même si on détruit tous les bateaux qu'ils ont en Libye, les trafiquants vont rencontrer d'autres moyens pour faire leur business. Ils vont pas renoncer à 5 milliards d'euros par année. Donc, c'est un combat important qui doit être basé sur une coopération internationale aussi d'un point de vue des mécanismes de justice et des forces de police entre les différents pays.
Merci, merci beaucoup, Monsieur Ambrosier. Je donne la parole à Ali Konaté. Ali, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui prennent tous ces risques, comme vous l'avez fait ?
Oui, bon, moi, personnellement, je n'encourage jamais quelqu'un d'autre pour traverser la mer. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement bon. Et puis souvent aussi, ça m'étonne que les frères qui sont en Europe, qu'ils envoient l'argent à leurs frères des pays, qu'ils n'ont qu'à traverser la mer. Vraiment, moi, je veux que l'Africain, on n'a qu'à un peu valider notre vie. Parce que si on valide la vie, on ne va pas penser à traverser la mer. Une fois que tu as une fois passé là-bas, et puis tu ne dois pas penser que quelqu'un d'autre va faire là-bas. Parce que c'est l'autorité, quoi. Parce que tu vas perdre ou tu vas gagner.
Merci, merci Ali Konaté. Je remercie aussi Monsieur Ambrosi. On va devoir rendre l'antenne pour une petite pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Oh bonsoir, nous ouvrons à présent un autre volet de la thématique de l'immigration. Nous allons parler de xénophobie en Afrique du Sud. Les immigrés sont depuis quelques semaines insultés, persécutés, tués. Le bilan est d'au moins 7 morts et plusieurs blessés. Les autorités sont désemparées face à ces bouffées de xénophobie. Avant de débattre de ce sujet, je propose de suivre ce reportage de notre correspondante à Johannesburg, Anita Powell. Le récit est de Michel Joseph.
Du cœur de Johannesburg, une chanson d'espoir et de paix, un appel sans réponse. La violence xénophobe a balayé la nation arc-en-ciel, provoquant des protestations et des affrontements dans les villes de Durban et Johannesburg. Des centaines de ressortissants étrangers, la plupart venus de pays africains comme le Congo, l'Éthiopie, le Malawi, le Nigeria, la Somalie ou le Zimbabwe, ont été déplacés. La police a arrêté des centaines de personnes. Le président Jacob Zuma a lancé un appel pour la paix à sa nation.
Who want to go home? They must
Mais dans les rues du quartier Yeovil à Johannesburg, la vie quotidienne est une lutte pour de nombreux immigrants africains. Adebo Wale Johnson est venu du Nigeria il y a un an. Son gagne-pain, ses chaussures qu'il vend au coin de la rue. Il dit qu'il est victime de discrimination quotidiennement.
They use the word go back to your country. What are you doing here? If your country is good enough, why?
Ils nous disent, retournez dans votre pays. Que faites-vous ici? Si votre pays est bien, pourquoi êtes-vous ici? Je ne comprends pas vraiment ce discours. Ça me fait mal au cœur que mes frères noirs me traitent de la sorte.
Beaucoup, comme ces ressortissants congolais, ont fui ce qu'ils disent être une répression croissante sous la présidence de Joseph Kabila. Ils disent qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils se disent aussi dégoûtés de leur pays d'adoption.
J'ai laissé mon pays. Kabila, il voulait me tuer. Je suis venu réfugié ici. Maintenant, il cherchait pour me tuer. Je vais partir où maintenant?
Si on veut qu'on part, on va partir. On nous donne le temps. Nous arrangeons ça dans nos enfants. On part. Et là-bas, ils ferment leur ambassade. Les Sud-Africains qui vivent là-bas, ils descendent ici. Nous, on part. Ces relations-là, c'est fini.
Le vrai problème, c'est être un peu proactif. Et ça passe par un système d'éducation de la masse. Ça passe par la... On doit conscientiser les Sud-Africains que pendant l'apartheid, les pays africains se sont mobilisés pour combattre l'apartheid. Donc, il ne peut pas se permettre aujourd'hui de commencer à commettre ces actes criminels contre les Africains qui s'étaient, eux, sacrifiés pour qu'ils obtiennent la liberté sur la marche.
Même les chefs religieux estiment que la prière ne sera pas suffisante pour résoudre le problème.
Pour nous, je pense que c'est une haine causée par la situation socio-économique, le chômage en Afrique du Sud.
Jacob Mama Bolo, membre du Congrès national africain dans la région de Johannesburg, dit que son gouvernement s'emploie à redresser les torts, mais qu'il y a un long chemin à faire avant d'y arriver.
Nous avons complètement dépassé l'héritage du colonialisme qui remonte à plus de 300 ans. Et je suis convaincu que la propagation de la violence que nous avons vue est un cas isolé.
Maba Bolo n'est pas le seul à garder de l'espoir.
I don't know why they hate us. Je ne sais pas pourquoi ils nous détestent. C'est la question que les migrants se posent le plus et c'est la question que je pose à mon invité sur le plateau, Monsieur Shurkin. Alors, comment expliquer ce sentiment de haine qui sévit aujourd'hui en Afrique du Sud?
Malheureusement, c'est normal. Je ne veux pas dire que c'est bon, mais c'est normal. C'était de la xénophobie et c'est un phénomène universel. Mais ici, dans ce cas-là, c'est lié au faillite, au problème avec la transition démocratique en l'Afrique du Sud. Il y a la richesse, donc on a des étons. On croyait que tout le monde deviendra riche ou que la qualité de vie se hausserait rapidement après la fin de l'apartheid. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de la population qui reste mécontent, malheureux, pauvre. Ils cherchent des excuses, ils cherchent de comprendre pourquoi. Et donc, un bouc émissaire, comme un immigré, un étranger, c'est trop facile.
Alors avec nous, par téléphone, en direct de Johannesburg, Marc Bafou, directeur d'African Diaspora Forum. Monsieur Bafou, bonsoir.
Bonsoir. Je suis plutôt le président de la diaspora africaine d'Afrique du Sud.
Enchanté. Et je sais, Monsieur Bafou.
Pas le directeur, mais le président, oui.
Monsieur Bafou, tout d'abord, quelle est l'ambiance générale dans le pays? Est-ce que ça s'est calmé?
Bon, je ne sais pas si vous avez appris que depuis quelques deux jours, le gouvernement a déployé l'armée dans les zones chaudes.
Oui.
Les zones d'attaque, donc relativement, le calme est revenu. Le gouvernement est maintenant en train de déployer, donc... tous les officiels pour travailler sur le terrain pour atténuer un peu la tension. Donc nous, dans la province du Gauteng, donc on a depuis pratiquement avant-hier, on est avec le gouverneur de la région du Gauteng et on a eu une séance de travail donc avant-hier. Aujourd'hui, on a fait une très grande marche de plus de 30 000 personnes et demain on rencontre le président de la République. Donc nous pensons que le gouvernement a pris, est en train de prendre, du moins est en train de prendre cette affaire au sérieux. Parce que certainement à cause de la pression internationale, la pression continentale. Oui.
Alors revenons un peu sur ce qui a déclenché cette violence, cette vague de violence. Le roi Goodwill Zwelithini, le roi Zoulou, avait mis le feu aux poudres le 21 mars en sommant les étrangers de faire leurs bagages et de quitter le pays. Il a par la suite appelé au calme sans faire son mea culpa. Peut-on dire qu'il est le seul responsable dans cette affaire ?
Mais la xénophobie est ancrée dans les institutions sud-africaines. C'est pas que c'est cette année que le roi Zoulou a parlé. On a eu cette vague des xénophobies qui a emporté plus de 60 personnes en 2008. Mm-hmm. Et par an, en moyenne, il y a au moins 100 migrants qui sont tués parce que à cause de leur nationalité. Donc il est bien vrai que cette année, le roi a mis de l'huile au feu, mais c'est pas que c'est cette année qu'il y a la xénophobie. La xénophobie se manifeste dans toutes les administrations sud-africaines et c'est ce que nous leur reprochons. Et nous savons tous que l'Afrique du Sud est sortie est sortie de l'apartheid et donc les Sud-Africains n'ont pas eu la chance de communier avec le reste du continent, d'échanger avec le reste du monde. Donc, ils sont pas, la majorité des Sud-Africains ne sont pas sortis. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres pays africains. Ils ne comprennent pas les réalités qui peuvent pousser les gens à voyager. Et donc, il y a un travail pour nous, il y a un travail à faire après l'indépendance, après la démocratie en 94. Le gouvernement qui était sur place devait mener un travail fort pour essayer de faire connaître le reste du continent et le reste du monde. C'est maintenant que...
Monsieur Bafou, oui, une dernière question avant de nous quitter. On accuse souvent les Sud-Africains de schizophrénie. Ils ont pendant longtemps été victimes de ségrégation, de l'apartheid, vous l'avez mentionné. Et plusieurs d'entre eux ont trouvé refuge dans des pays voisins. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Les étrangers viennent trouver refuge en Afrique du Sud et voilà qu'on les accuse de tous les maux. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec cette analyse?
Ben, effectivement, la classe politique, donc le politique sud-africain, n'a pas enseigné aux Sud-Africains à la basse classe qu'on a été hors de l'Afrique du Sud, qu'on a bénéficié des pays voisins, qu'on a bénéficié de tout le continent, du soutien de tout le continent pour avoir la libération. Ça n'a pas été enseigné. Le politique n'a jamais enseigné ça. Mm-hmm. Et donc, le Sud-Africain à la basse classe ne sait pas. Il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'on leur dise aussi pourquoi les gens viennent chez eux. Parce qu'il y a des stéréotypes que les migrants viennent foutre la merde chez nous. Les migrants sont illégaux. En fait, tous ces mots-là qu'ils attachent à tout ce qui est migration. Et même quand tu vois les lois sur la migration en Afrique du Sud sont très, très, très strictes. Par exemple, si tu travailles en Afrique du Sud, si tu es venu en tant que travailleur, ton permis de travail... C'est pire, il faut te rendre chez toi au
Merci.
Pays.
Monsieur Bafou. Oui, on va devoir rendre l'antenne. Monsieur Bafou, je vous remercie infiniment pour votre temps, pour avoir répondu à nos questions. Merci, Monsieur Shurkin, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je vais remercier nos téléspectateurs de nous suivre. Retrouvez Jacques Aristide la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Washington Forum. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos suggestions sur notre page Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée à tous.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple. Ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1-202 257 35 83. Je répète, 1-202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. C'est un officier des douanes qui va bientôt à la retraite. Pendant des années, il a vu un homme traverser la frontière à bicyclette, un grand sac derrière lui. Perplexe, il veut percer le mystère du grand sac à l'arrière du vélo. Écoutons leur conversation. Vous répondrez vrai ou faux, true or false, à ces deux énoncés. 1. L'officier des douanes voulait savoir ce que l'homme à la bicyclette cachait dans le gros sac. 2. L'homme à la bicyclette trafiquait les marchandises contenues dans le grand sac. Vous allez ensuite répondre à ces trois questions. 1. Qu'est-ce que l'homme à la bicyclette transportait dans le gros sac? 2. Que trafiquait-il en réalité? 3. Pourquoi les achetait-il à Bantuka? Vous apprendrez enfin comment utiliser en anglais le present perfect. Nous allons écouter ce conversation.
Stop, old man. Get down off your bicycle.
Hello again, officer.
I have seen you crossing this border for years.
And I've seen you standing at the border, stopping me every time and asking me to get down for years.
Where are you going?
I'm going to Bantuka. I have relatives on the other side of the border.
What is in the big bag today?
I bought some presents for my people, plus some newspapers, some old gloves, old shoes.
Every time I have checked inside the big bag you carry on your bicycle, every time, nothing.
And every time I haven't given you the same answer.
Is that the truth? You're not smuggling anything?
Of course it's the truth. I'm not smuggling anything in my bag.
Come on, old man. I just know you're a smuggler. I'm about to retire. Can you please tell me the whole truth?
You really haven't noticed yet?
No. What have you been smuggling all this time?
Bicycles. They are cheaper in Bantuka. I cross the border with an old bicycle, buy a new one in Bantuka, and ride it back to the big city to sell it there.
Ya Allah. How could I not notice that?
Easy. You only notice the big bag.
Sorry, old man. Now I know your smuggling strategy. Give me the bicycle.
No, I'm sorry, officer. This is my old bicycle.
Vous avez entendu l'officier des douanes et le vieil homme. L'énoncé 1 est vrai. L'officier des douanes voulait savoir ce que l'homme à la bicyclette cachait dans le gros sac. L'énoncé 2 est faux. L'homme à la bicyclette trafiquait les marchandises contenues dans le grand sac. Voilà les réponses aux questions. 1. Qu'est-ce que l'homme à la bicyclette transportait dans le gros sac? Des cadeaux, des journaux, de vieux habits et de vieilles chaussures. 2. Que trafiquait-il en réalité? Des bicyclettes. 3. Pourquoi les achetait-il à Bantuka? Parce qu'elles coûtent moins cher à Bantuka. Écoutez et répétez ces phrases que vous avez entendues dans la conversation.
I have seen you crossing this border for years.
I have seen you standing at the border.
I have checked inside the big bag.
I bought some presents.
Ces phrases sont au present perfect. Elles expriment des actions passées qui ont un lien avec le présent. On forme le present perfect en conjuguant l'auxiliaire to have au présent suivi du participe passé du verbe. Voilà d'autres exemples. He has caught the old man. The villagers have sold bicycles. We haven't heard the music. Vous avez suivi la conversation entre l'officier des douanes et le vieil homme. Vous avez découvert le mystère du grand sac, ou plutôt celui de la bicyclette. Et vous savez utiliser le present perfect, n'est-ce pas? Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph.
E-mail.
Vous allez entendre l'expression email, qui signifie electronic mail, courrier électronique. Email. Et répétez. Repeat. Email. Une phrase utile quand il s'agit de email. To check the email. Jeter un coup d'œil sur le courrier électronique. Le vérifier. To check. Le regarder. To check the email. To open your email, l'ouvrir. Let's check our email.
Let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago.
Jetons un coup d'œil sur notre courrier électronique. Si vous n'avez pas une adresse électronique chez vous, il est fort possible que vous avez accès à cette boîte aux lettres sur un site comme Yahoo ou Hotmail et que vous allez vérifier votre adresse email régulièrement lorsque vous vous rendez à un cybercafé, à un cybercafé. Have you checked your email? Avez-vous vérifié votre courrier électronique? You have an email from your friend. Vous avez une lettre électronique d'un ami. Écoutez la conversation qui suit dans un bureau.
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine.
Vous avez entendu la façon dont on se dit bonjour le matin dans un bureau. Good morning, Max. Bonjour, Max. How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Ou bien, comment vas-tu aujourd'hui? Fine, thank you. Bien, merci. And you? Et vous? Et toi? Just fine. Bien. Just fine. C'est littéralement tout simplement bien. Écoutez le reste de la conversation. Listen.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, she has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Une autre façon de demander à quelqu'un d'où il vient ou d'où elle vient, quand on a l'impression d'être presque sûr de l'origine d'une personne, c'est de dire « Do you come from Dakar ?» Vous venez, tu viens de Dakar ? En fait, on s'attend alors à une confirmation et vous pouvez répondre positivement « Yes, I do » ou bien négativement « No, I do not » en contraction « No, I don't ». I come from Guinea. I don't come from Dakar. Répétez après moi. Do you come from Gabon? No, I don't. I come from Congo. Écoutez, listen. Écoutez Kathy.
Do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Et quand on n'a aucune idée d'où vient une personne, on demande la question générale. Where do you come from? D'où venez-vous? D'où viens-tu? Come from signifie venir de. Where do you come from? C'est assez différent que Do you come from Dakar? Vous venez de Dakar? Écoutez, listen.
Where do you come from? I come from San Francisco. Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from? I come from California. Where do you come from?
I come from the US.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. Until next time, à la prochaine fois. Joseph à la Voix de l'Amérique, heureuse d'être de nouveau avec vous pour cette 28e leçon d'anglais English USA. Au cours de notre prochaine leçon de English USA, nous allons voir Martin Lerner qui visite le parc national de Yellowstone. Il demande à des touristes ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Vous apprendrez aussi à exprimer ce que vous n'aimez pas. USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michel Joseph. I'm your guide. Guide, votre guide. I'm your guide. Je suis votre guide. We're going to walk. On va marcher. We're going to walk. Please stay together. Restez ensemble, s'il vous plaît. Please stay together. Please stay with me. Restez avec moi. Stay. Restez. I like the park. I like the forest. I like the mountains. I like the rivers. I don't like cities. Je n'aime pas les villes. I don't like bugs. Je n'aime pas les insectes. Bugs. C'est un terme général pour tous les insectes. Bugs. I don't like bugs. What don't you like? What do you like? What don't you like?
Good morning. I'm Judy. I'm your guide. This is Martin. He is a reporter. He's writing a story about visitors to the park. He's going to ask some questions.
Good morning.
How are you?
Good morning.
We are going to walk for 3 hours this morning. Are you ready?
Sure.
Let's go.
Yeah. Please stay together. I want to see all of you. Let's go.
Judy, do you like your work?
Of course. I like the country. I like the forests. I like the mountains and the rivers. I like the clean air.
Where are you from?
I'm from Los Angeles. I don't like cities. I don't like hot places.
When did you come here?
4 years ago. I lived in Denver for 2 years. I didn't like Denver. It's a very big city.
Do you like being a guide?
Very much. I'm outside all day. I don't like being inside.
Where do you live?
I live near the park. Please, stay with me.
I'm going to talk to some of the other people. See you later. Is this your first visit to the park?
Yes, it is.
Do you like parks?
Yes, we like parks. We live in the east, but we like the parks in the west. This is my wife.
Hello, how are you?
Fine, thanks.
What do you like here?
I like the animals.
What don't you like?
I don't like the people.
There are many people.
I don't like the bugs.
What don't you like?
I don't like camping.
But I like camping. Do you like camping?
No, I don't like camping.
Men like camping.
I don't.
I don't.
Il y a des choses, des événements, des activités ou des gens qu'on n'aime pas. Écoutez bien comment on dit « je n'aime pas ». « I don't like ». C'est la contraction de « I do not like ». « I don't like ». Rappelez-vous, avec un verbe, « I don't like camping ». « I don't like walking ». « I don't like talking ». Ou bien, l'infinitif du verbe, « I don't like to camp ». « I don't like to walk ». I don't like to talk.
I don't like cities. I don't like hot places. I don't like Denver. I don't like being inside.
What don't you like?
I don't like the people. I don't like bugs. Do you like camping?
No, I don't like camping.
Répondez, yes, I like. Si vous aimez quelque chose. No, I don't like. Si vous n'aimez pas. Essayons ensemble. Do you like camping? Aimez-vous le camping? Yes, I like camping. Do you like bugs? No, I don't like bugs. Do you like cities? Aimez-vous les cités? No, I don't like cities. Do you like the country? Aimez-vous la campagne? No, I don't like the country. Do you like walking? Yes, I like walking. No, I don't like walking. Allez-y maintenant. Répondez aux questions de Martin Lerner.
Do you like camping? Do you like bugs? Do you like cities? Do you like the country? Do you like walking? Thank you for your time. See you later. Okay. Hello. How are you?
I don't like walking.
Don't you like the park?
I love the park, but I don't like walking. I like driving.
She doesn't like walking. She likes sitting.
He doesn't like the park. He likes cities.
See you later.
What do you like? Encore une fois, qu'aimez-vous? What do you like? C'est très simple. Vous répondez. I like the country. J'aime la campagne. I like forests. J'aime les forêts. I like rivers. J'aime les rivières. I like to walk. Avec un verbe, le verbe se met à l'infinitif. Ou bien, I like walking.
I like this.
It's beautiful. Isn't it beautiful?
Yes, it is. Look, look at the fish.
Do you like fishing?
Yes, I do.
I don't like fishing. I like walking. I like moving. I don't like sitting. I don't like fishing. I can't talk. I like talking.
Are we going to sit here?
Let's watch the river.
Utilisons I don't like avec le verbe être, to be. I don't like being late. Je n'aime pas être en retard. Répétez après moi. I don't like being late. I like being outside. J'aime être dehors. I like being outside. I
don't like being inside. Je n'aime pas être à l'intérieur. Inside. I don't like being inside. I don't like being late. I like being outside. I don't like being inside. Encore une fois. I don't like being late. Je n'aime pas être en retard. I like being outside. J'aime être dehors. I don't like being inside. Voilà, vous venez d'entendre la 28e leçon de English USA. Vous devriez à présent pouvoir exprimer assez facilement ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Exercez-vous à haute voix en pensant à vos activités régulières et à votre goût de certaines choses. Until then, practice hard. Goodbye. Voulez-vous mieux parler l'anglais?
C'est fait.
Avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct
et de pratiquer l'anglais avec
Michel
et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.
Bienvenue, welcome to Anglais Télé, bienvenue à Anglais Télé. My name is Michelle Joseph and I have a guest with me today.
Je suis Daniel Crafton, bienvenue Michelle aussi.
Enchanté, oui. Welcome, we're happy to have you Dan.
Merci.
And we are going to look at how words can be changed either by putting a prefix. That means a few words
or
in front.
Or a suffix.
Or a suffix, words, a few little letters after a word.
I learned that when I was in grade school.
Oh, good for you.
Prefix and suffix.
Right, so prefix is a few letters before a word, and suffix is a few letters after a word.
Yeah, right.
And these suffix and prefix add meaning to words, right, Dan?
They do, yes.
And it can change
And they make
everything.
The words move, too.
Oh, move, dynamic.
Yeah, right.
That's what we're about.
You can change a noun into a verb.
Right.
Suffix.
Absolutely.
Right.
Okay, that's a bit complicated, but
like run and running.
Oh, yeah. But we're going to look at...
We won't do that. No.
We're not doing that one right now.
Okay.
But we're going to look at prefixes that all of you have heard, I'm sure. So the first one we've chosen is anti, anti or anti.
Right.
How do you say that? Anti. Anti.
Either one is okay.
Either one is okay, says Dan. I agree with that. I like that.
Okay.
Either one is okay. So, anti is against or opposite something, right?
Usually against anything.
Against anything and everything.
Yeah, anything you're against, you're anti.
Okay, so hey, are you anti-Michelle?
No.
I hope not.
No, I am.
And you're not anti-English, Anglais Télé listeners.
No.
Okay.
I'm not anti-French.
In fact, I think the opposite is pro, right?
Yeah, pro, right.
Okay, but we'll get to pro. Let's look at anti. So, if you're depressed, what would you take? Something to do the opposite.
An antidepressant.
Antidepressant. If you're having an allergic reaction, we're looking at common ones here, and I'm sneezing and coughing. The common.
Well, then you take an antihistamine.
Antihistamine. So I think you guys have heard of those. What about being anti a particular person or a particular policy or...
We can be anti-politics, anti-government,
right.
Anti-party,
anti-religion,
anti-presidents, anti-Congress.
Remember people who were anti-Bush or...
Oh.
There are a lot of people anti-Obama right now.
And anti their own president of their own country.
Right. So anti, I think you guys got it anti, right?
Right.
Right. I'm not anti-Dan. I'm not.
Okay. So next one that's fairly common is auto that we see in front of words.
Right.
And that means the self. Auto is reflexive. Reflective. Okay. Mustn't make it not a reflection. Auto. So
it also can, you can also use it in automatic.
Right.
Which is something that happens without any without you doing anything.
Right. Okay.
Right?
And how about, do you want, can I get your autograph?
Sure.
Okay.
Right.
Or I'm driving an automobile, so.
Well, some famous person would give you their autograph.
Oh, well, you're famous then.
You go in the street and
you're famous.
Get the autograph.
As Voice of America, he's famous. Can I have your autograph?
Sure you can. There you go.
Okay, so. Autograph, automatic.
Automobile.
Automobile. Basically, it's the self in that process, right?
Right.
Something like that. How about buy? I've heard of that.
Buy. Means,
it means two.
It means two.
Right.
It
two
also means,
things.
It also means two ideas.
Two ideas.
Okay. Two thoughts.
Two activities.
Two thoughts, two ideas, two politics.
Like bipartisan, you know, you have the Republicans.
Bipolar.
Bipolar, when your head has kind of...
It's a person who is mean 1 minute and nice the next minute.
Right. And it's usually due to chemical
I'm
imbalance.
Sure you know people like that. It's not a good thing, but it's,
right.
but it happens.
And how do you, you know, bicycle. So
right.
That
bicycle.
One we know. Everyone knows bicycle. Bivalve, I think. Does that have to do with the heart?
It has to do with the heart. It also has to do with a fish.
Oh, yes. They
a
have
clam
these two.
Or a clam or an oyster is a bivalve.
Right. They have these valves that
now.
Open on the side.
Right, on the side. And they let the water in and they let the
right.
oxygen out.
So I think we've understood.
That's
bi
a bivalve.
Means two.
Right.
And it's happening at the same time.
Right.
Okay. How about con? I have seen
okay.
that. Con.
Well,
like, we're conversing, to converse.
Right.
Converse. It's with. Con is with. Actually, in Spanish, con really means with, avec.
Avec.
Yeah,
avec.
Contigo,
in French, it's a with.
With you.
Enfin. Yeah.
So that's interesting. So
but you
con,
know, but there's the opposite of con, pro.
Oh, absolutely.
Pro and con. It
to
means
be
you're
for
against something.
Or against,
for
with
or against.
Or not with.
Right. So con you can be used as a determination of what you believe in, or it can be used as a prefix for a word.
So,
right?
Yeah, that's true. Well, let's look at it in the context of the
right.
prefix. Like, in the context of the prefix, it still means with, like contact. I'm in contact.
Continue.
To continue.
Yeah.
To conform.
To keep going, right.
So.
To conform, to do what.
Conform to what everyone should do.
Yeah.
So you're doing what, you're with the norm of what should be done.
Right.
To converse, to contact.
That's what we're doing now. We're conversing.
Right. So it's
right.
with.
Right.
Okay. And so pro, it's kind of like the opposite of anti. It's pro.
Right.
To be pro,
to believe, to believe very much in something.
To believe. So let's say I'm proactive. I love this Anglais télé, and I'm really proactive. And so is Dan. He puts in a lot. So, or to be actually, people cut it short and just say I'm pro.
Right.
They just cut everything short.
But you can also, and kind of away from that. You can be a pro as part of professional.
Oh, that's true.
Let's not forget
that.
Now, don't
confuse the two, guys.
No, they're different. I just
that's
said.
They're different.
We're
thank
away
you.
From that now.
Yeah, thanks so, a lot, Dan.
But it's important that they say, hey, I'm a pro, you know?
Right.
I really,
so
I'm the best
pro.
In what I do.
Right. So I'm a pro is
right.
different from, hey, I'm pro Bush or
right.
I'm pro
Obama.
Obama or...
Right. Right, totally different.
Okay, totally different.
But so one is about you, and one is about something else.
Right, so you see how
right?
confusing that could be for an English learner?
It could be. That's why we're explaining it to all you people
right,
out
absolutely.
There.
Absolutely. mieux parler l'anglais?
C'est fait!
Avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct.
Et de pratiquer l'anglais avec...
Michel.
Et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.